grand reportage.
C'est l'une des universités islamiques les plus anciennes et les plus connues au monde. L'université Al-Azhar du Caire a été fondée au Xe siècle. Elle attire encore aujourd'hui des milliers d'étudiants étrangers. Les trois quarts viennent d'Asie, 20% sont africains. Ce sont eux que RFI a rencontrés. Ces étudiants passent souvent de nombreuses années dans la capitale égyptienne, dans des conditions parfois précaires. Ils sont partis, disent-ils, à la recherche du savoir. Ils racontent leurs espoirs et leurs désillusions. Les étudiants africains d'Al-Azhar, c'est un grand reportage de Nadia Blétry.
Cette prière résonne dans la grande mosquée d'Al-Azhar, au cœur du vieux quartier islamique du Caire. Dans l'une des salles qui dessert la cour intérieure, des étudiants sont assis sur un large tapis, les uns à côté des autres. Certains sont venus de loin pour apprendre, dans une langue qui n'est parfois pas la leur. Comme Idrissi Dias, un Nigérian de 25 ans, qui finit ses études.
Il y a beaucoup d'universités au Nigeria, mais on préfère venir ici à El-Azhar, car c'est l'une des plus grandes universités du monde. On veut vite apprendre l'islam, notre religion. Et pour ça, on doit avoir des connexions avec le monde arabe, où notre Saint-Coran a été envoyé.
Difficile de savoir précisément combien d'étudiants étrangers ont fait le même choix qu'Idrissi Dias. Celui de s'arracher à leur pays d'origine pour s'inscrire dans la grande institution de l'islam sunnite du Caire, l'une des plus anciennes du monde. Les chiffres sont jalousement gardés par El-Azhar. Les étudiants africains seraient quelques milliers, près de 20% de l'ensemble des étrangers. Pour attirer les étudiants venus d'ailleurs, l'université se présente aujourd'hui comme la garante d'un islam du juste milieu. Le professeur de jurisprudence Mohamed Ranem s'en fait l'écho.
La caractéristique d'Al-Azhar, c'est de se mettre à distance des idéologies intolérantes. Et franchement, c'est l'exclusivité d'Al-Azhar. Souvent, il ne fait pas de doute que les étudiants qui viennent d'ailleurs vivent beaucoup de problèmes d'intolérance religieuse et d'extrémisme. Et nous, on traite ces problèmes ici.
L'enseignant est en adhésion totale avec son institution. Il promet un avenir radieux à ses étudiants.
Bien sûr, les étudiants qui viennent à Al-Azhar ont les certificats islamiques les plus élevés du monde. Et comme ils viennent de pays déjà musulmans, quand ils rentreront chez eux, il est très probable qu'ils occuperont les plus hautes fonctions grâce à leur diplôme.
Pourtant, cette vision idéalisée ne correspond pas toujours à la réalité des étudiants étrangers, en particulier pour ceux qui viennent d'Afrique subsaharienne. Si leur vie au Caire est faite d'espoir, elle est aussi jalonnée de désillusions. Habib Sek et Ahmed Sarir Sek sont boursiers de l'université. Ils viennent du Sénégal, l'une des communautés africaines les plus représentées à El-Azhar. Dans un café près de leur résidence universitaire, les deux amis racontent des parcours semés d'obstacles, des rêves et des chutes. Ils portent un regard sans concession sur leur situation. Ahmed Serir, longiligne jeune homme de 24 ans, vit au Caire depuis bientôt 6 ans. Il est étudiant en sciences de l'éducation.
Quand j'étais au Sénégal, j'étais très, très excité de venir ici parce qu'on nous vantait les mérites de l'Égypte. Parce que c'est le pays, le berceau de l'humanité, les pays des pyramides, tout ça. J'étais tellement excité que je n'avais pas dormi la nuit pour venir ici et puis vivre une nouvelle expérience qui me permettra à l'avenir d'avoir une carrière professionnelle très prometteuse, mais ouais, c'est un peu décevant, c'est pas le cas, on y croit moyen. Les études islamiques n'est pas tellement valorisées au Sénégal, Et puis dès que tu rentres là-bas, ici, tu peux être qu'un professeur de langue arabe, il n'y a pas d'autre option là-bas.
Mais souvent, le désenchantement commence bien avant le retour, par manque d'informations. Bacheliers dans leur pays d'origine, comme Habib et Ahmed Serir, les étudiants ont parfois la mauvaise surprise de découvrir, une fois arrivés au Caire, qu'il n'y a pas d'équivalence de diplôme. Ils doivent passer un test d'arabe et ne sont souvent pas admis à l'université. Habib, 25 ans, a le rire facile. Pourtant, quand il a atterri dans la capitale égyptienne il y a 5 ans, son enthousiasme a été sérieusement écorné.
Au Sénégal, j'ai parlé avec des gens qui ont été déjà ici, en Égypte. Ils me font croire que dès que je venais ici, je peux entrer directement à l'université. Mais ce n'était pas le cas, donc raison pour laquelle j'étais un peu fâché au début. J'ai obtenu mon bac avant d'arriver ici, mais ils m'ont fait refaire le bac. Parce que quand on a fait le test de niveau, j'ai obtenu la première. Donc je refais la première après la terminale. Donc je me sens un peu gâché 2 ans ici.
En arrivant, certains sont même réorientés vers le collège. Et il n'est pas rare de mettre 6 ou 7 ans pour obtenir une licence. Beaucoup se plaignent de ne pas avoir pu s'inscrire dans les filières non religieuses qui les intéressaient. D'autres renoncent avant la fin de leurs études. Mais ce n'est pas la seule difficulté. En Égypte, l'intégration ne va pas de soi. Racisme, rejet ou stéréotypes font partie du quotidien. Habib l'a expérimenté souvent.
Quand j'étais au Alexandrie, au centre anglais, quoi. Donc il y a un ami, on était dans la même classe. Donc on a fait le prière de Maghreb. Après 5 minutes, on a quelque chose à faire, ce qui roleplay, quoi, comme genre de théâtre comme ça, en anglais. Donc il m'a demandé, est-ce que tu es musulman? J'étais un peu fâché. Je lui ai dit, bon, je suis un juif. On a fait la prière ensemble. Après, puis il m'a demandé, est-ce que tu es musulman? Ça, je ne supporte pas. C'est la vérité, ça. C'est que, je vous dis, les Égyptiens, ils pensent que si tu n'es pas Égyptien, tu n'es pas un musulman.
Les étudiants se recentrent sur leur communauté, mais faute de moyens, les sorties et les distractions sont limitées. Et c'est souvent sur les terrains de sport que naissent les solidarités. Ahmed Seril s'échauffe avec son équipe. Il est arrivé en finale du tournoi annuel des étudiants sénégalais d'Al-Azhar. Micro, enceinte et musique à fond pour transformer une après-midi d'hiver en jour de fête. Ahmed Seril est convaincu que ces rencontres ont une véritable fonction.
Chaque nationalité ou chaque pays africain a comme un tournoi comme ça qu'il organise chaque année, qui regroupe les étudiants seulement, dans le but de renforcer les liens entre les étudiants ici.
Les journées sportives permettent aussi aux femmes et aux hommes de se retrouver dans des espaces mixtes. 7 supportrices sénégalaises soutiennent leurs équipes, à grand renfort de rires et de cris. Parmi elles, Wedji, au visage lumineux. Elle est encore nouvelle au Caire, elle y habite depuis un an. Ses souvenirs de là-bas sont pour l'instant plus nombreux que ceux d'ici. En marge de la compétition sportive, elle fait défiler des photos sur son téléphone portable.
Je peux te montrer. J'habite à la Madina al-Baous al-Islami, cela veut dire la cité d'Al-Azhar pour les filles. C'est bien, c'est comme un hôtel de 5 étoiles. Super, c'est très cool là-bas. Ils sont très organisés, nos chambres, il y a tout là-bas. Je peux dire qu'on est un peu gâtés même par rapport au logement. C'est chic, mais rien d'autre pour moi.
Rien d'autre, car les années égyptiennes, parfois chaotiques, ne seront pas toujours récompensées. Wedji voudrait que le Caire soit une terre de transit.
J'aime l'éducation et j'envisage peut-être devenir quelqu'un dans l'avenir. Et peut-être l'Égypte, c'est une transition tout simplement pour aller dans notre pays, je ne sais pas. La France, parce que moi, j'ai fait mes études en France, en français.
Mais depuis les années 1990 et la signature des accords de Schengen, il est devenu très compliqué pour les étudiants africains d'obtenir des visas pour l'Europe. Ils essayent de multiplier les stratégies d'avenir, comme Wedji.
Ici, il y a plein d'opportunités. D'apprendre l'informatique, on dit que c'est très facile ici. Et d'en avoir des diplômes aussi. Au Sénégal, c'est plus payant qu'ici. Si vous voulez intégrer dans un centre d'anglais, vous pouvez payer jusqu'à 100 000 francs au Sénégal. Mais ici, ça ne dépasse même pas, je pense, 600 ou bien 700 guinées.
700 guinées, c'est l'équivalent de 40 euros. Mais c'est aussi à 3 euros près le montant de l'allocation que touchent chaque mois les étudiants qui vivent dans les résidences d'Al-Azhar. Quelques-uns réussissent à améliorer leur quotidien quand ils touchent une bourse de leur pays d'origine. Mais généralement, leur situation financière est tendue. Quelques jours plus tard, impossible de retrouver Wedji dans sa résidence universitaire. L'accès aux chambres est interdit aux visiteurs et les gardiens veillent scrupuleusement aux heures d'entrée et de sortie des jeunes filles et à ce que le couvre-feu imposé le soir soit respecté. Wedji s'excuse de la sévérité des lois et concède qu'elle a moins de liberté ici qu'au Sénégal. Elle fait aussi plus attention à sa manière de s'habiller. Dans les rues du Caire, elle est chaperonnée aujourd'hui par un ami étudiant pour aller chercher des livres. Dans le quartier d'Ouzbékia, les paroles des bouquinistes s'échappent de minuscules échoppes aux devantures en bois. Wedji a besoin d'un dictionnaire, mais le vendeur n'est pas prêt à brader ses prix. Le livre coûte quasiment la moitié de la bourse mensuelle de Wedji.
Bah, puisque l'éducation est obligatoire, on est obligé d'acheter des livres même. Pour ce qui me concerne, bah, moi parfois même ma famille m'envoie de l'argent. J'ai un frère qui est en en Espagne, il m'a envoyé, c'est pas longtemps, de l'argent même. C'est pourquoi je peux pas dire que tous on est dans les mêmes conditions, tu vois.
Merci.
Pour les étudiants africains qui vivent en dehors de la cité universitaire, la situation est souvent plus précaire encore. Ils touchent une bourse à peine plus importante de la part d'El-Azhar, 1000 livres, soit 50 euros par mois. Mais ils doivent se loger et se nourrir. Direction El Marg, dans le nord du Caire. Il faut rouler longtemps depuis le centre-ville pour rejoindre le local de l'Union des étudiants guinéens. Beaucoup d'entre eux vivent dans ce quartier populaire et excentré, moins cher que les autres, parfois en famille. Ce soir, l'ambiance est solennelle dans les locaux de l'association. Un nouveau président vient d'être élu. Pas de fioritures, un bureau, des chaises en plastique, les murs sont nus. Une trentaine d'étudiants se sont déplacés. Un grand drapeau guinéen a été suspendu, un peu de travers, sur un tableau blanc. Tout commence par une prière. 400 étudiants guinéens vivent au Caire. Un peu plus de la moitié est inscrite à El-Azhar, comme le nouveau président Barry Mohamed Ibrahim. Il reçoit 50 euros par mois de l'État guinéen, en plus de son allocation de l'université. Mais ça ne lui suffit pas pour nourrir sa famille de 4 personnes. Il a trouvé 2 emplois en parallèle.
Je suis professeur de français, quelquefois aussi j'enseigne le français et puis ça me permet aussi de me trouver du pain. Je vais dire le pain de mes enfants, je vais dire ça me permet de relier les deux bouts. Je travaille aussi dans un centre d'appel qu'on appelle EXID, mais enseigner le français c'est mon art, j'aime beaucoup ça, c'est pourquoi je me glorifie beaucoup plus de ça que de travailler dans un centre d'appel. Beaucoup de nos frères qui profitent de ces centres d'appel, mais la conséquence dans ces centres d'appel c'est que quelquefois c'est pas compatible avec les études.
Une entrave qui pousse parfois à renoncer définitivement aux études. Certains restent inscrits à l'université pour avoir des papiers, les autres essayent de mener plusieurs vies de front. Dans des conditions aussi précaires, le bureau des étudiants devient essentiel. Le nouveau président connaît l'ampleur de la tâche.
Nous intervenons spécifiquement dans les domaines sociaux. Par exemple, si un étudiant a des problèmes avec la sécurité égyptienne, nous nous impliquons activement, nous menons toutes les démarches avec l'ambassade de Guinée au Caire. Et donc, aussi dans le domaine de la santé, quand un étudiant tombe malade, nous nous retrouvons tous pour l'assister sur le plan social, sur le plan financier.
Et quand on s'étonne des problèmes des étudiants avec la sécurité égyptienne, la réponse de Barry Mohamed Ibrahim est éclairante.
Les problèmes de sécurité peuvent être, par exemple, les problèmes de séjour. Pour que vous puissiez renouveler votre séjour, il faut que vous fournissiez les documents qui prouvent que vous êtes en situation de classe. Donc, quelquefois, cette période peut prendre du temps. Et entre-temps, si vous êtes alors pris par la sécurité, ça peut vraiment tourner mal. Tu peux te retrouver, par exemple, dans la main de la sécurité et peut-être en attendant qu'on trouve que vraiment tu es en situation de classe, quelquefois tu peux faire des jours en prison.
Malgré cette précarité, la plupart des étudiants guinéens présents dans la salle disent ne pas regretter leur choix. Pour beaucoup, le séjour en Égypte a été un voyage fondateur. Barry Mohamed Ibrahim explique, lui, qu'il est venu en Égypte pour chercher le savoir. Ce sont les mêmes mots qu'emploie un Sénégalais de 34 ans qui a fini ses études à El-Azhar il y a quelques années. Il vit toujours dans la capitale égyptienne. Pour pouvoir parler plus librement, il choisit de se faire appeler Madi, un nom d'emprunt. Il est assez critique sur la formation qu'il a reçue à El-Azhar, mais il estime que ses années égyptiennes lui auront permis de forger son propre chemin.
Ma mère m'avait dit, je me rappelle très bien, ne reviens pas ici avec les savoirs islamiques qui ne te feront qu'un imam ou laveur de mort. C'était pas très important pour moi. L'apprentissage que nous avons eu pendant ce voyage fut aussi une quête de soi, une quête de sens.
Madi a un parcours hors du commun. Dans la grande bibliothèque de l'Institut des Dominicains du Caire, il fabrique des ponts entre le monde arabe et l'Afrique de l'Ouest, avec des livres.
C'est vraiment une bibliothèque énorme, énorme, énorme. Et ce qui me plaît plus dans la bibliothèque, c'est que la grande partie de les grands titres du pensée ouest-africain, musulmane, s'y trouvent ici. Ouais. Donc, je me sens chez moi, dans cette bibliothèque. Ouais.
Madi tisse des fils, construit des récits, se plonge dans le passé et vit la recherche comme une aventure. Il s'inscrit dans les traces de penseurs africains de l'islam, raconte leur périple à travers le continent, leur voyage dans le désert, s'enthousiasme, se passionne pour des auteurs, rouvre des bibliothèques. Après une rencontre avec un partenaire égyptien, il se lance dans l'édition. Ses auteurs sont ivoiriens, burkinabés, nigérians, sénégalais. Ils publient leurs titres essentiellement en arabe et les distribuent au Sénégal. Il partage aujourd'hui son temps entre le Caire et Dakar, et pour cause.
Il me fallait à un moment donné connaître ce que les Africains ont apporté à l'islam. S'il n'y avait pas cette manière de réapproprier l'islam, cette manière d'africaniser mon islam, je pense que je ne pourrais pas continuer à vivre en Égypte ou même continuer de travailler dans le domaine où je travaille actuellement. C'est vraiment important d'avoir cette vision des choses, vraiment de la culture sénégalaise, qui est aussi arabophone, qui est aussi négro-africaine, qui a ses propres langues, qui a ses propres idiomes. Le Sénégal ne doit pas se résumer dans la francophonie ou dans la langue française, mais doit penser aussi à ses racines culturelles arabo-islamiques et africaines aussi.
Madi se réjouit que de plus en plus d'universités en langue arabe voient le jour en Afrique de l'Ouest. Une situation qui contribuera probablement au déclin du nombre d'étudiants africains à El Azhar. Un professeur de la grande institution qui souhaite garder l'anonymat commente lui aussi le déclin des étudiants étrangers. Contrairement au discours policé de rigueur, il est très critique. Il dénonce le manque d'indépendance de l'institution, mais aussi l'absence de soutien du pouvoir politique à l'université, tout comme le peu de fonds alloués par le gouvernement à El Azhar. Il aurait bien des solutions à proposer, comme l'établissement d'un test de niveau officiel de la langue arabe ou la réforme de l'administration, mais il ne se fait aucune illusion. Il est simplement dépité. Selon lui, El Azhar aurait pu constituer une bien meilleure diplomatie d'influence pour l'Égypte, au moment où d'autres pays, comme l'Arabie Saoudite par exemple, investissent davantage le champ religieux. De plus en plus d'étudiants africains espèrent, eux, ne plus être les simples ambassadeurs d'El Azhar, mais porter leur propre voix. Dans le centre du Caire, Madi s'enfonce dans un dédale de ruelles qui mène à une zaouïa, un lieu de prière collective. L'édifice religieux appartient à la confrérie soufie de la Tidjaniya, la plus répandue d'Afrique de l'Ouest. C'est la fin de la journée, une dizaine d'hommes se retrouvent dans une salle de prière. Égyptiens, Soudanais, Nigérians, Tchadiens ou Sénégalais, au sein de cette confrérie soufie, les Africains sont très représentés, comme l'explique le cheikh de la Zaouïa.
Il y a beaucoup de fidèles dans le monde, principalement en Afrique. Il y a des millions de personnes en Afrique. Il y a des millions de personnes en Afrique qui appartiennent à la confrérie de la Tirania. Mais il y a aussi des Zaouïa de la Tirania en Amérique, en France ou même en Italie. En Égypte, on n'est que 10 000.
Madi œuvre aujourd'hui à documenter l'apport des Africains à l'islam.
N'oublions pas qu'au moment où personne ne voulait voir les compagnons du prophète, au moment où personne ne voulait les accueillir, les Mekwa chassaient les musulmans, c'est les Africains qui les ont accueillis en Abyssinie pendant au moins 10 ans ou 11 ans. Donc, les liens d'Afrique avec l'islam, ça date du troisième année de l'islam. C'est-à-dire l'islam est venu en Afrique avant d'aller à Médine.
Entre le Caire et Dakar, Madi construit des passerelles, dont le but, dit-il, de réconcilier des mondes.
Entre le monde islamique et les périphéries de l'islam, tels qu'on nous nomme comme africains ou comme étant des pays plus africains que musulmans, avec ces deux mondes, d'islam de centre et d'islam périphérie, je pense qu'il y a eu pas mal de clashs, pas mal de stéréotypes et pas mal aussi de racisme. Je pense qu'il serait intéressant de faire un travail de critique, un travail d'introspection pour concilier ces mondes et dépasser ces clivages-là. L'islam africain n'est jamais un islam de périphérie. Il n'y a pas d'islam de périphérie. Et tous les périphéries sont des centres.
Les étudiants africains d'El Azhar, un grand reportage de Nadia Blétry, réalisation Pierre Chaffangeon.